Salut tout le monde! Bienvenue à un autre épisode, ou en fait, une autre saison de C'est quoi ta spécialité? On est bien content de vous retrouver pour une troisième saison. Aujourd'hui, ça commence en force avec Dr. Bessisseau, qui est un radiologiste d'intervention. C'est le deuxième Bessisseau qu'on reçoit au podcast, ouais. Qu'on avait reçu son frère, qui est gastro-entérologue la saison passée. Puis encore une fois, ça a été un super épisode.
Ouais, donc ça, si vous voyez une petite ressemblance physique, c'est pas le même médecin. C'est le frère. Mais non, joke à part, c'était super intéressant. La radiologie d'intervention, je pense que c'est un milieu qu'on n'est pas trop exposé durant notre médecine, puis qui est vraiment, vraiment différent de l'image qu'on se fait de la radiologie typique. Puis ça vaut vraiment la peine d'écouter l'épisode pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, quelque chose qui pourrait peut-être aller toucher, genre, un peu comme votre habileté manuelle et votre curiosité, genre, d'invention un peu. Il disait que c'est vraiment à cours de la technologie que ça suivait ce cours-là. En tout cas, j'arrête de jaser. Moi, je vous dis juste, allez écouter l'épisode. Bon épisode! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Okay, merci, Dr. Bessisseau, d'avoir accepté notre invitation.
Merci, merci, ça fait plaisir.
Donc, toi, t'es rentré directement du cégep, fait pré-med.
Oui, c'est ça, j'ai fait un pré-med, puis je suis rentré en médecine tout de suite par la suite à McGill.
C'était ça le but, ton cégep, t'étais mindé de...
Oh non, pas du tout. Honnêtement, j'ai vraiment tombé par accident en médecine. J'ai un frère et une sœur qui sont médecins, fait qu'ils étaient plus vieux que moi, puis je les avais vus aller à la médecine, puis je les avais vus passer par la médecine, puis j'étais comme, ah, je sais pas si c'est pour moi, tout ça. Fait que moi, quand je rentrais au cégep, ce qui m'intéressait, c'était plus les maths, la chimie, tout ça. Fait que je m'en allais dans une carrière d'actuariat. J'avais même appliqué en actuariat, j'avais eu mon poste, puis même, j'ai une bourse pour aller étudier. Puis c'était... Je n'ai pas une bonne raison pourquoi j'ai appliqué en médecine. Je pense que c'était comme un effet de masse. Tout le monde a appliqué en médecine dans mon groupe. Fait que là, j'ai dit,
vous avez dit que vous aviez les notes. Puis...
J'avais les notes. J'ai dit, ça a été une belle expérience. Tout le monde me dit, vas-y, applique. Puis j'ai dit, il faut voir. Fait que j'avais appliqué. Puis j'avais fait les entrevues. Je trouve ça OK. Puis je me suis fait accepter. Mm. Puis j'étais vraiment surpris. Puis après ça, j'ai pensé. Puis je me suis dit, c'est plus difficile à rentrer en médecine. Rentrer dans d'autres programmes. Fait que je vais rentrer en médecine, je vais faire une année. Si j'aime pas ça, ben, je débarquerai puis je retournerai dans l'autre. Puis j'ai fait mon BEP, puis mon pré-med, puis je suis resté en médecine. Puis là, j'ai fait ma première année, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Okay. Puis c'est surtout, ça a vraiment cliqué qu'on a commencé à avoir des patients, puis aller en clinique, puis tout ça. Fait que là, ça a vraiment cliqué. Puis j'ai commencé à adorer ça. Fait que là, je suis resté en médecine, puis depuis, dedans, puis c'est devenu plus une passion, une vocation qu'autre chose. Fait que, tu sais, c'est vraiment...
Ouais, c'est drôle. Y a-t-il des moments que vous avez hésité, tu sais, pendant le parcours, que vous avez dit « j'ai-tu fait le bon choix? »
Ouais. Tu sais, je te dis, l'année pré-med, je trouvais ça un peu difficile parce que c'était beaucoup de théorie. Je trouvais ça un peu difficile. J'ai aussi switché du français à l'anglais. J'ai fait mes études pré-universitaires en français. Puis aller en anglais, je trouvais ça très, très, très difficile. Fait, j'ai eu un peu de doutes, tout ça. Mais je pense, j'aimais beaucoup le groupe avec lequel j'étais, mes groupes d'amis en médecine. Fait que ça a fait une grosse, grosse différence pour moi. Puis ensuite de ça, j'ai tenu le coup jusqu'à ce qu'on commence en première année. Puis après ça, qu'on est rentré plus dans je me rappelle, le premier bloc de la première année, c'était plus théorique aussi. Puis après ça, tu rentres dans le cœur, puis les poumons, tout ça. Puis là, je trouvais ça super intéressant. Mm. Puis la physiologie, l'anatomie, je trouvais ça incroyable. Fait que, tu sais, j'ai embarqué dedans, j'ai aimé ça. Puis depuis, je suis comme à fond dedans, 100%. Fait que, je trouve ça super intéressant encore, là, tu sais, jusqu'à aujourd'hui. Là.
Puis vu que tu avais des membres de ta famille qui étaient dans le milieu, est-ce que tu connaissais un peu les spécialités qui étaient possibles de faire?
Honnêtement, non. Mes deux membres de la famille sont en plus dans le domaine de médecine interne, un en gastro, un en médecine interne générale. Et fait que je connaissais un peu la médecine interne, mais je connaissais pas bien les spécialités. Fait que je rentrais dedans, puis moi, j'avais... Je suis un peu différent en termes de personnalité. Je suis un peu plus manuel, tout ça. Donc, je pensais plus à un domaine chirurgical. Puis, en rentrant, je voulais faire de l'orthopédie, ou chercher orthopédique, ou un chirurgien. Puis, j'ai été voir, j'ai fait un peu de shadowing, tout ça. Puis, j'ai pas vraiment aimé ça. Puis, je me suis dit, ah, mais écoute, la seule chose que je connais d'autre, c'est la médecine interne. Fait que je dis, ah, je vais faire de la médecine interne. Puis, on va rentrer dans la business de la famille. Puis, mais après ça, on a eu, je me rappelle, il y avait un Dr. Stein qui est venu donner un cours d'introduction à la radiologie. Mm-hmm, puis, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, j'ai demandé pour faire de la recherche avec. Fait que j'ai passé un été en radiologie à faire de la recherche. Puis, c'est où est-ce que j'ai vraiment découvert la radiologie, que je ne connaissais pas du tout. Puis, par accident, je suis tombé en radiologie d'intervention, puis j'ai adoré ça. Puis, depuis, c'était vraiment, c'est là où ce que j'ai vraiment décidé de ce que j'allais faire, mais c'est arrivé assez tard dans mon institut en médecine. Là, c'était pas en première année, je te dirais que c'est arrivé plus vers la troisième année que j'ai découvert la radiologie. Fait que c'était un peu différent, oui.
C'était-tu très compétitif à ce moment-là, la radiologie?
C'était assez compétitif, oui. C'était très compétitif. Je dois dire que maintenant, les gens ont des CV incroyables. Je fais des entrevues pour les résidents, puis je me dis des fois, je ne sais pas si j'aurais été accepté, parce que je pense que le monde font beaucoup. Mais c'était compétitif. Puis on avait quand même une bonne cohorte de gens qui voulaient rentrer en radiologie. Mais ouais, fait que c'était compétitif, mais si tu faisais ce que tu avais à faire, je pense que tout le monde qui ont appliqué, qui voulait, sont rentrés en radiologie. Fait que c'est compétitif, mais il y a beaucoup de postes quand même à travers le Québec. Fait que souvent, les gens vont trouver un poste au Québec.
Puis là, une fois que vous rentrez en radiologie, vous ne pouvez pas aller directement en radiologie d'intervention. Vous devez faire radiologie générale avant.
Ouais.
Puis après ça, comment que vous avez trouvé ça, ce tronc commun-là un peu?
C'est sûr que c'était... Moi, en rentrant, j'étais un peu mindé. J'aimais beaucoup l'intervention, mais je me suis dit, avoir un open mind, pas de préavis, pas de préjugés, essaye tout. C'est comme ça qu'un peu que je suis rentré. Puis, la diagnostic, je trouve ça super intéressant. Est-ce que je serais 100% diagnostic? Je trouve ça difficile. Mais même maintenant, je fais à peu près 3-4 jours d'intervention, puis 1 à 2 journées de diagnostic. Puis, je trouve que c'est un bon mix parce que j'ai mes journées plus occupées en intervention, ce que je fais, mon dada, ce que j'aime. Puis une journée un peu plus tranquille, où j'ai le temps de boire un café, de m'asseoir, de regarder des scans, lire des rayons X. Puis je trouve ça super intéressant pareil. Mais oui, fait que tu sais, j'ai pas tout pris ça d'un mauvais côté. J'ai vraiment adoré ma résidence. J'ai appris beaucoup. Puis ça m'a, je pense que ça m'a aussi préparé à ce que j'allais devenir en intervention parce que. Une des choses qui est super intéressante en radiologie d'intervention, c'est que on s'occupe de tout le corps, puis toutes sortes de pathologies. Et avoir ce background en radiologie diagnostique, ça m'a aidé à mieux comprendre les pathologies que j'allais traiter. Parce que si tu les comprends, tu es capable de lire les images, tu es capable de lire les scans, là tu comprends un peu plus comment les traiter, c'est quoi la bonne façon de traiter, la bonne approche. Puis, ça m'a donné un peu ce contexte-là de background pour comprendre ce que j'allais faire dans le futur. Ouais.
Ça fait du sens. Puis, est-ce que quelqu'un pourrait aller là-dedans, vraiment en voulant faire juste radiologie interventionnelle, puis être moins intéressé par la radiologie diagnostique, mettons?
Oui. Ah, mais tu sais, au Canada, c'est un tronc commun. Tu rentres en radiologie diagnostique. Puis là, maintenant, c'est une résidence. C'est comme un R6 que tu appliques quand tu es R4, je pense. Puis là, tu peux faire ton... C'est comme un fellowship, mais un R6. Aux États-Unis, c'est deux entrées différentes. Okay. Tu as une entrée en diagnostic, une entrée en intervention. Tu fais un tronc commun de diagnostic, mais après, je pense, la troisième année, ils vont faire plus de l'intervention, puis ils vont faire plus du diagnostic. Puis en Europe, ils ont des modèles hybrides entre les deux. Je pense que si quelqu'un est moins aidé vraiment en radiologie d'intervention, puis honnêtement, au Canada, c'est difficile d'avoir un travail qui est 100% intervention. Je connais pas de gens qui font juste l'intervention 5 jours semaine. Tu vas avoir des centres, même dans les centres académiques comme McGill, Toronto, UDM, les gens vont toujours faire 1 à 2 semaines de diagnostic. Et donc, je pense que si quelqu'un déteste la radiologie diagnostique, puis il veut faire de l'intervention, puis il pense vraiment en faire, ça ne marchera pas. Il faut que tu ailles quand même un peu, tu vas faire ça une journée par semaine, tu fais comme moi, que tu sois malheureux une ou deux journées par semaine dans ta vie, c'est long, mais je pense qu'il faut que tu aimes aussi faire un peu de diagnostic pour faire de l'intervention.
Moi, j'aimerais juste prendre un pas arrière deux secondes, puis pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi la différence entre la radiologie d'intervention et diagnostic?
Oui, c'est une bonne question, parce que je ne sais même pas la réponse moi-même. mais, tu sais, la radiologie d'intervention, c'est assez, tu sais, c'est difficile à définir, mais la façon que je vais définir ça, c'est une spécialité où on fait des procédures minimalement invasives, assistées par de l'imagerie. Puis c'est assez vague, puis ça ne veut pas dire grand-chose, mais la plupart des procédures où ce qu'on va faire, on va utiliser l'échographie, la radiographie, la fluoroscopie, c'est fait en radiologie d'intervention. Puis, plus spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les accès veineux, des PICC lines, les cathètes de dialyse, les portes à casse sont maintenant mis par la radiologie, biopsie de drainage, mais aussi des choses plus complexes, des embolisations, des saignements digestifs, saignements de la rate. Fait en radiologie d'intervention. On fait aussi beaucoup de stents, soit en artériel ou en veineux, pour des sténoses, syndrome post-thrombotique. On fait traitement de fibromes, on fait de la chimio-embolisation pour les tumeurs au foie. On est capable d'aller trouver le vaisseau qui nourrit la tumeur, injecter de la chimio directement dans la tumeur, puis bloquer la barre sanguine ou à la tumeur. On peut faire aussi des thermoablations. Fait que si t'as une petite tumeur au foie, je peux mettre une aiguille dans la brûlée, puis 10 minutes plus tard, tu n'as plus de cancer, tu retournes chez toi 2 heures plus tard, puis c'est fini. Donc, c'est très vaste. Ça évolue très rapidement parce que c'est un domaine qui est très proche de la technologie. Donc, à chaque 2-3 mois, on a un nouveau outil qui sort. Puis c'est comme une des choses le fun dans la spécialité, c'est que tu es toujours celui qui a le nouveau iPhone là, quand ça sort. C'est un peu comme ça que je le vois. Fait que, tu sais, c'est une spécialité qui est difficile à définir, mais qui englobe tout ça un peu.
Puis alors, de ce que j'entends, c'est beaucoup de choses, du peu d'expérience que j'ai en hôpital, qui arrivent quand même vraiment souvent, qui ont vraiment besoin. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un nombre suffisant pour pouvoir faire toutes ces procédures-là?
Oui puis non. Tu sais, c'est sûr que ça évolue très vite. Puis, tu sais, si je regarde ce que je faisais quand j'ai commencé ma pratique, comparativement maintenant, il y a beaucoup de nouvelles procédures qu'on faisait pas il y a 7 ans. Puis, nouvelles procédures, ça veut dire que tu as besoin de plus, t'en fais plus. Mais ce qui nous limite, c'est notre espace physique. On n'a pas plus de salle qu'avant. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on travaille de plus longues heures, mais avec le même nombre de gens. Fait que, puis je pense que c'est pas sustainable. Dans le futur, ça va être difficile de garder ça comme ça. Il faut avoir plus d'espace, il faut avoir de nouvelles machines, tout ça. Puis c'est où est-ce qu'on va avoir besoin de plus de gens. En ce moment, c'est un domaine qui est très en demande. Si tu vois, surtout plus en région, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est où est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux salles d'enjeux qui ouvrent, tout ça. Fait que je pense qu'on n'est pas assez. On pourrait être beaucoup plus. Puis on ne traite pas ce qu'on devrait traiter. On pourrait traiter beaucoup plus de patients avec des façons moins invasives, sauver beaucoup de chirurgies. Puis on a beaucoup de patients qui sont pas traités de la façon, je te dirais, optimale ou qui sont pas traités du tout.
Il faut que le shift se fasse. C'est quand ils mettent une nouvelle découverte pour telle condition que ça force de comme chirurgie à ça, à comme une intervention plus minimalement invasive.
Oui, c'est ça. Il y a ce shift-là qui se fait. Fait que, tu sais, comme, par exemple, les fibromes utérins, tu sais, au lieu de faire une myomectomie ou de... Tu sais, puis je dis pas qu'on est l'alternative à tout. Je pense que, comme dans toute pathologie en médecine, il y a toujours des patients qui font mieux dans cette catégorie-là. Comme si on prend l'exemple du fibrome utérin, il y a des patients qui devraient aller en chirurgie, mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui pourraient se faire emboliser. Fait que, tu sais, t'as pas de chirurgie. Tu viens, on fait la procédure, tu repars la même journée à la maison, puis il n'y a pas d'anesthésie générale et tout cette affaire-là. Le temps de récupération est beaucoup plus court. Fait que je pense que ça, c'est une partie de ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de pathologies qui ne sont pas traitées. On parle syndrome de congestion pelvienne. On en parle très peu.
Je dois avouer que je pense même pas que je sais quoi.
Non.
Ouais, ça prouve mon point, ce qui est bien. Ça
fait 3 ans de médecine.
Ouais, c'est ça. Puis on en parle pas, mais tu sais, c'est des patientes qui étaient souvent après 2 grossesses qui ont dilatation des veines ovariennes avec une dilatation des veines pelviennes qui commencent avec des douleurs pelviennes chroniques. Mm. Puis c'est quelque chose qui est très peu, tu sais, vous avez pas d'exposure en médecine, les gens n'en parlent pas beaucoup. Et c'est des patients qui se ramassent souvent avec des douleurs chroniques pendant 2, 3, 4, 5 ans avant que quelqu'un fasse le diagnostic. On traite 145 minutes, ils sont bien contents.
Fait que wow, okay.
C'est ça, le traitement pour symptômes post-thrombotiques. C'est un peu mon data, mais des gens qui ont des veines dilatées parce qu'ils ont une thrombophlébite, qui sont pas capables de bien marcher puis qui font des ulcères veineux. Il y en a beaucoup, mais la plupart de ces gens-là ne se font pas traiter, mais il y a un traitement à ça. Une recanalisation veineuse avec des stents, une endoprothèse, tout ça. Et donc, je pense qu'une partie des gens aussi, ce n'est pas toujours une alternative. C'est des fois savoir que ça n'existe pas, que les gens ne savent pas que ça existe. C'est un traitement qui est relativement accessible et facile à faire, sans complications et tout ça.
De l'éducation à faire de ce côté-là.
Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Je pense que c'est un des problèmes de la radiologie, c'est qu'on a de la difficulté à... On ne contrôle pas la population. Fait que c'est difficile de patients. Donc, c'est difficile des fois d'aller chercher les patients, de dire oui, il y a une alternative à ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'informations à faire, beaucoup d'éducation à faire pour dire oui, c'est une pathologie, c'est pas des femmes qui ont des douleurs, qui se plaignent pour rien, tu sais, ou... Puis il y a un traitement, puis on peut le faire facilement de façon sécuritaire, puis de juste créer tout ça. Puis ce qu'on nous, on essaie de faire de plus en plus, c'est de créer des services de clinique. Ce qui est bizarre, le monde me dit, un radiologue, une clinique, c'est quoi ça? Mais parce que c'est des pathologies justement qui ne sont pas connues. Fait que on voit les patients avant, on leur explique, on les diagnostique, on fait le traitement, puis on les suit après, justement. Fait que ça fait partie de la radiologie d'intervention.
C'est drôle parce que souvent on imagine les radiologues comme des gens qui n'aiment pas trop les contacts avec les patients, mais là ce que vous décrivez c'est complètement le contraire.
Oui.
Vous voyez, il y aura des patients souvent, à tous les jours presque.
Tous les jours, on a des cliniques. Ici à McGill, on a 3-4 cliniques par semaine. Fait que presque à tous les jours, on a des cliniques. Fait qu'on voit des patients avant et après les procédures. Oui, puis c'est quelque chose que si j'aurais dit, est-ce que vous connaissez la radiologie d'intervention avant? Avant d'être arrivé à l'hôpital, tout ça, la plupart des gens ne savent pas que ça existe, ne savent pas ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on peut offrir. Ouais.
Pour revenir un peu comme au training, c'est combien de temps de training pour la radiologie d'intervention, mettons, après le tronc commun?
C'est 1 à 2 ans, dépendamment. La plupart des gens vont faire 1 an, certaines personnes qui vont faire 2 ans. Comme tout en médecine, tout se complexifie. Mm-hmm. Et donc, maintenant, il y a des sur-spécialités en radiologie d'intervention. Donc, on a de l'intervention oncologique, intervention veineuse, vasculaire, et ainsi de suite. Donc, c'est pas rare que des gens vont faire 2 ans de sur-spécialité en radiologie d'intervention, 1 an plus général, puis 1 an plus spécialisé dans un domaine. Mais oui, c'est ça, 1 à 2 ans.
C'est quand même rapide pour justement la panoplie d'interventions qui sont possibles.
Oui, puis c'est vite, puis c'est très différent parce que tu passes d'un entraînement diagnostique où tu as très peu de contacts cliniques à un milieu où c'est plus un milieu chirurgical là, dans le sens où que tu vois des patients, tu dois prescrire des médicaments, tu dois faire des suivis, tout ça. Donc c'est un gros shift dans ta façon de penser, de voir les choses. Mais moi, ce que je dis tout le temps aux fellows et résidents que j'entraîne, c'est que la radiologie d'intervention, c'est tellement vaste, puis à chaque mois, tu vas devoir faire une nouvelle procédure que tu n'as jamais faite d'avant. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va te fournir les outils de travail pour faire des interventions de façon sécuritaire. Puis après ça, tu vas être capable de développer ta pratique. Puis, je suis en contact avec plein de fellows, puis ils m'envoient toujours des cas qui ont fait des nouveaux cas, puis c'est des trucs que même moi, j'ai jamais fait, mais ils sont capables de les faire parce que tu donnes l'outillage de base. Ils sont capables, ils savent quoi faire de façon sécuritaire. Puis, Ouais.
Mm-hmm. Genre, il y a des techniques de base à apprendre, puis après, si on peut appliquer ça à plusieurs types d'interventions, puis s'adapter
ouais.
un peu.
Oui. Mm-hmm. Je trouve ça assez niaiseux, mais je dis, c'est comme, tu sais, quand tu vas au restaurant, quand t'es jeune, puis t'as des petits dessins, puis il faut que tu passes à travers un chemin pour essayer de trouver le bon chemin. Fait que c'est souvent ça, c'est que t'as un outil, puis il faut que tu trouves le meilleur chemin pour te rendre là pour faire le traitement. Puis c'est ça, ce qui est le fun en radiologie, c'est qu'il y a beaucoup de thinking outside the box. Ce qui est le fun. On a souvent des patients qui viennent nous voir, puis sont en dernière ligne. On a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Ils nous viennent nous voir. Puis c'est une chose que j'adore, radiologie, c'est de dire, d'appeler à mes collègues et dire, écoute, j'ai une idée assez folle, mais écoute-moi. Puis là, on en discute. Puis là, t'es comme, oui, puis si tu passes par là, tu fais ça. Oui, oui. Puis là, tu essaies de trouver une procédure vraiment personnalisée pour un patient avec un problème spécifique. Et je pense que ça, c'est un bout, une partie très le fun de la radiologie. C'est la variabilité, puis les différentes choses que tu peux essayer de faire, oui.
Le problem solving.
Exactement, ouais. Exactement.
Puis est-ce que tu as un organe ou une procédure que tu t'es sous-spécialisé justement ou que tu aimes juste plus faire?
Moi, je me suis sur-spécialisé en deux choses. Je fais beaucoup de foie non oncologique, fait que tout ce qui est plus hypertension portale, les tips, les recanalisations de la veine porte chez les patients cirrhotiques et tout ce qui est plus biliaire complexe, les extractions de calcul. Et au niveau des jambes, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est veineux, syndrome de post-thrombotique ou thrombose aiguë pour aller chercher le caillot. Parce que si le patient fait une thrombophlébite profonde, extensive, on peut aller juste enlever le caillot de sang. Puis là, la jambe revient à sa grosseur, le caillot est parti. Ils sont quand même anticoagulés, mais il y a une amélioration qui se fait à l'intérieur de. Tu sais, ça prend 45 minutes à faire. Puis à la fin de la procédure, tu vois la jambe passer de ça à ça. Puis la douleur qui part.
Fait ça doit être satisfaisant à voir.
Oui. Fait que ça, mais aussi beaucoup le veineux chronique, les syndromes post-thrombotiques et tout ça. Ça, j'en fais aussi pas mal aussi.
OK.
Vous avez parlé un peu tantôt de certaines procédures, puis je trouvais que ça ressemble un petit peu à la chirurgie vasculaire.
Oui.
Qu'est-ce que vous auriez à dire pour comme les gens pour dire de venir faire chirurgie d'intervention puis pas les autres types de chirurgie? Radiologie d'intervention, je veux dire.
Par rapport à la chirurgie vasculaire?
Ou n'importe quel autre type de chirurgie. Juste pourquoi c'est mieux pour vous?
Ah, pourquoi c'est mieux? Je pense que c'est une question de goût, premièrement, mais ce que j'aime en radiologie d'intervention, c'est que c'est très variable. Comme aujourd'hui, j'étais en salle. Premier cas, c'est une patiente qui avait un cancer du rectal qui saignait. Fait qu'on a été embolisé une des artères rectales. Ensuite de ça, on avait un patient qui avait une tumeur au foie. Fait qu'on est rentré dans le foie, on a trouvé la masse, on a mis de la chimio dedans directement, puis on l'a embolisé. Après ça, j'ai un patient qui avait une obstruction au rein. Fait qu'on a mis une néphrostomie pour aller déverser l'urine à l'extérieur. Patient palliatif qui avait besoin d'un drain d'acide tunnelisé pour des douleurs chroniques. Tu sais, c'est un peu, puis là, j'ai fait des biopsies, puis j'ai fait ça. Fait que c'est très variable, on touche un peu tous les organes, ce que je trouve super intéressant. Puis ce que j'aime, c'est qu'on a une belle variété d'interventions qui partent de 10 minutes à 5 heures.
Mm-hmm.
On peut faire plein de petits cas, 10 minutes, ou tu peux faire des cas un peu plus complexes. Puis je trouve ça le fun d'avoir des mix d'un peu des deux. C'est le fun de faire un cas de 2 heures, puis après ça, faire un cas de 10 minutes, puis tu sais, ça, je trouve ça super intéressant. Fait que c'est ça, je te dirais, la grosse différence entre la chirurgie puis ça. C'est sûr qu'avec la chirurgie vasculaire, ça, il y a beaucoup de overlap. Puis c'est un peu un continuum, mais eux autres vont s'occuper plus des structures vasculaires, ce que nous aussi, on peut faire. Mais nous, on va faire tout le reste aussi. On va faire les reins, on va faire les voies biliaires, on va faire l'oncologie, tout ça. Fait que c'est ça la grosse différence.
Mm-hmm.
Ouais.
Est-ce que ça arrive souvent que ça passe de vous, mettons, à une chirurgie, soit parce que ça, finalement, c'était une chirurgie qui était plus appropriée ou bien qu'il y a des complications?
Non, je te dirais que c'est plus l'inverse. On voit... la médecine, c'est beaucoup plus, tu sais, c'est très encadré. Fait que, on a des trajectoires de patients. Fait que, on a un patient qui vient avec une tumeur au foie de telle grosseur, mais ça s'en va en chirurgie. Mais en bas de 3 cm, ça s'en vient pour qu'on le brûle. T'sais, fait que, ça, c'est bien organisé. Puis en termes de complications, c'est plus d'habitude l'inverse. C'est que, Puis, tu sais, ça va dans les deux sens. Des fois, je vais faire une intervention, puis je vais avoir une complication, puis il faut que j'appelle un collègue chirurgien, puis dire, écoute, complication que tu peux la régler. Mais la plupart des cas, c'est l'inverse. C'est que les gens vont avoir une chirurgie, puis ils vont avoir une complication, soit une fuite biliaire, ou un saignement, ou une thrombose. Et nous autres, on va aller justement les aider à régler ce problème-là. Fait que ça se fait plus dans l'autre sens.
Mm-hmm, OK. Intéressant. Ouais. Ouais. Y a-t-il quelque chose que t'aimes moins de ton travail, mettons?
Oui. C'est assez demandant, puis comme tout, je pense, tout travail en médecine, la charge de travail est de plus en plus lourde. En radiologie d'intervention, je pense que ce qui est plus difficile, c'est qu'on ne contrôle pas nos patients. Fait que, on est un peu à la merci de nos spécialités. Mm-hmm. Fait que, le gynécologue va nous envoyer des patients, le chirurgien va nous envoyer des patients, mais on n'a pas nos patients à nous, ce que je trouve très difficile parce que tu ne contrôles pas un peu tes patients. Puis des fois, quand tu veux prendre des décisions sur le traitement des patients, il faut toujours que tu vérifies avec le médecin traitant. Fait que, je trouve ça un peu difficile des fois d'être en milieu de procédure, puis là, il faut que tu appelles quelqu'un et dire, OK, c'est-tu correct si je deviens plus agressif, puis je fasse ça, puis... Fait que ça, je trouve ça un peu plus difficile.
Fait que vous êtes tout le temps sur un job de consultant?
Souvent. C'est en train de changer beaucoup, où ce qu'on commence à avoir nos propres patients, mais la plupart de nos patients, on est des consultants, parce qu'on va faire une procédure, puis on les renvoie là.
Ça m'étonne quand même. Je pensais que vous aviez qu'une fois que c'était référé, ça devenait vos patients. Je savais pas tant que...
C'est une mentalité qui doit changer. Fait que, parce qu'on vient plus du volet de la radiologie, c'est comme ça que ça fonctionne en radiologie, d'envoyer un patient pour un scan, je fais le scan, je le lis, puis je t'envoie le rapport. Puis c'est un peu la même mentalité qui suit avec la radiologie d'intervention, où ce que on a des patients, ils viennent pour une néphrostomie, mais oups, je trouve quelque chose, c'est pas vraiment ton patient avant d'escalader. Il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre. Okay, je pense que c'est la bonne chose. Puis la plupart du temps, ils vont dire, oui, je te fais confiance, voici. Mais ça reste que faut toujours que tu ailles chercher cet avis-là. Avec les cliniques qui s'en viennent, tout ça, c'est en train de changer parce que souvent, ils vont nous référer le patient. Je vais voir le patient avant, je vais discuter du traitement avec le patient, les différentes options. Puis je vais faire le traitement. Puis si j'ai besoin de changer le traitement, mais là, tu as le lien avec le patient. Tu peux lui parler, tu dis, écoute, ça marche pas, on va faire ça, t'es correct, oui, ok, c'est ça les risques, boum, on continue. Fait que ça, c'est en train de changer, mais je te dirais, ça, c'est une partie assez difficile de ma job, parce que des fois, t'as toujours comme une main, t'es pris en arrière, faut que t'attendes une autre personne, ouais.
Puis aussi d'avoir, tu sais, aussi peu de temps, justement, pour connecter avec les patients, ça, c'est quand même un bon challenge, là, j'ai l'impression.
Ouais, puis c'est drôle, parce que, justement, ce matin, j'y ai pensé, on n'a pas beaucoup de temps pour connecter avec les patients, mais on a un contact très intime avec les patients parce que 99% des procédures qu'on fait, on ne les fait pas sous anesthésie générale. On les fait avec sédation ou avec anesthésie locale. Fait que les patients sont réveillés. Fait que souvent, on va leur parler durant les procédures.
Ah ouais.
Ouais. Fait que c'est intéressant. T'imagines, tu te fais brûler une tumeur dans le foie, puis t'es en train de parler, tu jaser de tes enfants puis de leurs grands-enfants. Ou, je me rappellerai toujours d'un cas d'un gars qui est tombé de son escalier puis il y avait un saignement au niveau de la rate. Puis je rentre le soir pour l'emboliser puis il y avait une game des Canadiens. Puis il me dit, écoute, tu peux-tu mettre la game? Je suis comme, OK. Fait qu'on met la game des Canadiens puis on commence à jaser de la game des Canadiens. Puis je suis comme, OK, arrête de respirer une seconde. Faut juste que je fasse une petite affaire. OK, là, faut jaser de la game pendant qu'il se passait. Fait que, ça fait que tu as un contact un peu plus intime avec les patients durant les procédures. Puis souvent, plus au niveau oncologique, souvent les patients vont... Le stress, quand le stress casse, au début, ils viennent, ils sont stressés. Puis en plein milieu de procédure, ils ont souvent un point où que le stress va casser. Ils deviennent plus détendus, plus ils commencent à te parler. Puis tu ressens vraiment leur impression... comment ils vivent le cancer. Je trouve ça vraiment, vraiment spécial comme interaction qu'on a. Mais c'est sûr qu'on a une interaction assez courte. Là, si on les voit un peu avant, un peu après. Mais ouais,
en même temps, c'est vraiment intéressant parce que vous avez des discussions hors que la médecine. J'ai l'impression que les patients, parce que dans le contexte, c'est en train de te faire une opération, tu ne veux pas nécessairement en train de parler de tes maladies. Fait que j'ai jamais vu ça ailleurs en médecine, que les gens ont juste des discussions sur d'autres sujets pendant 4 heures.
Ouais, ouais. Mais tu sais, ça dépend du patient. On a des patients qui sont super informés, qui vont rentrer. Puis, tu sais, quand tu rentres dans une salle de radiologie, nous, on travaille, on ne regarde pas le patient, on regarde notre écran où ce qu'on voit l'imagerie. Alors, souvent, les patients sont capables de le voir. Puis, on a des patients qui vont dire, « Ah, OK, t'es rendu où? T'es dans telle artère, c'est tout ça? » T'es comme, « Oui, puis là, oui, regarde, je m'en vais là. » Puis là, fait que t'as des patients qui veulent tout comprendre au niveau médical. Puis, il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils veulent juste parler d'autres choses. Ils sont comme, « Écoute, ils vont parler de leur voyage, puis de ce qu'ils ont fait. » Puis, souvent, je trouve ça super intéressant de connaître les patients. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de vécu. Ils vont me dire, « Ah, tu sais, moi... j'ai fait ça qui était le job, puis j'ai grandi comme ça. » Puis tu apprends tellement de choses avec ces gens-là. Puis ils sont là, ils n'ont rien à faire. Fait que t'es jase, c'est le fun.
C'est clair. Souvent, on ne prend pas assez le temps, justement, de faire ça là, dans le day-to-day.
Non, puis tu serais étonné de, de voir la compréhension des patients de la maladie. T'es souvent, ils ne comprennent pas forcément pourquoi on fait des chimio-embolisations. Puis le patient dit, « Ouais, mais dis-moi, mon cancer, il vient d'où? Puis pourquoi c'est arrivé? » Mais c'est des questions qu'ils ne poseraient jamais en clinique parce qu'ils voient que c'est occupé. Tu rentres, « OK, oui, tu as un cancer, on voit ici ça. OK, docteur, puis il part. » Mais quand ils sont là, puis tu as 2 heures avec eux, ils vont me dire, « Ah, OK, mais tu sais, pourquoi j'ai eu ça? Sais-tu pourquoi? Ou c'est quoi les différents traitements? » Puis tout ça. Puis tu t'en vois-tu pas mal? Puis c'est quoi qui va arriver dans le futur? Fait que t'as comme, tu vas chercher un peu plus, tu comprends un peu plus leur, tu sais, ils sont où dans le processus, la maladie, puis qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher.
C'est une opportunité de discussion, là,
quand même. Ouais. Puis eux autres, pour eux, de poser des questions, parce que, tu sais, ils ont le temps, ils sont là. C'est sûr que des fois, ils sont sédationnés, fait qu'ils dorment, puis ils sont super sèdes, mais la plupart du temps, ils sont assez là pour pouvoir nous parler, fait que je trouve ça super intéressant.
Ça va tellement changer la perception de la radiologie qu'ils ne parlent jamais à des patients et tout, là. C'est bon.
Tantôt aussi, vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui avait un truc pour la rate, vous a appelé, vous êtes rentré. Moi, je me demandais à quelle fréquence vous êtes appelé, comment vous trouvez qui est votre style, vie, personnel, travail? Est-ce que vous pensez que c'est bien balancé? Non?
La gare, je ne te mentirais pas, c'est quand même assez occupé. Justement, parce qu'on fait de plus en plus de procédures. T'sais, on va faire, sur la gare, ce qui nous tient occupé, c'est beaucoup d'embolisation. Fait que tout le saignement digestif, la trauma, juste saignement, parce qu'il y a des gens sur l'héparine. On va faire aussi tout ce qui est les patients aseptiques, les néphrostomies, les drains biliaires. Puis là, on fait maintenant des embolies pulmonaires massives. Et donc, il faut qu'on a beaucoup. Fait que c'est souvent occupé, mais... T'sais, je te dirais que work balance, c'est pas mal. T'sais, c'est pas si pire. C'est souvent des procédures de 1 à 2 heures. Fait que tu rentres, t'es là pendant 1 à 2 heures, puis là, tu peux retourner. Puis des fois, t'en as 2 ou 3. Mais la plupart du temps, je trouve ça très mal. T'sais, c'est qualité de vie, je pense, c'est bien. C'est occupé. Je te dirais pas que c'est pas occupé. Les gardes sont occupés. Mais puisque c'est des courte procédure, tu es capable d'aller faire la procédure, tu repars. Puis l'avantage qu'on a aussi avec les domaines chirurgicaux, c'est qu'en chirurgie, tu as la salle d'op. Fait que tu as une priorité. Tu mets ta priorité, tu te fais appeler quand la salle d'op est libre pour ton cas. Fait que quand ça arrive. Nous autres, on est les seuls qui utilisent notre salle d'angio. Fait que c'est facile pour moi de dire, OK, il faut que je rentre. Je vais être là dans 45 minutes, je vais venir faire le cas. Fait
que préparer la salle.
C'est ça. Fait que, ça me permet de planifier des fois ma journée, dire OK, mais je vais aller faire ça, puis je vais t'en aller faire mon épicerie, puis je vais rentrer faire un cas 2, puis après ça, je vais pouvoir tourner à la maison souper. Puis, fait que tu es capable d'un peu plus jouer avec ton horaire. Fait que je trouve ça assez flexible, ce qui, je pense, est essentiel pour la vie personnelle en dehors de la médecine.
Puis vous êtes de garde combien de fois par mois, vous diriez?
On est environ de garde, je te dirais, 1 sur 5, 1 semaine sur 5.
OK.
Fait que c'est pas super. On fait aussi de la garde de backup parce qu'on est un centre de trauma. On couvre, tu sais, quand on est de garde, elles savent pourquoi c'est occupé, mais tu sais, ça c'est local. À McGill, on couvre le Glenn, le Général, le Children, puis le Jewish. Fait que ça peut être assez occupé. Mais on est toujours 2 de garde. Fait que tu sais, si tu es très occupé, tu as toujours quelqu'un qui peut venir en backup. Fait à cause de ça, on en fait un peu plus, mais nos gars sont moins occupés. Fait que ça balance un peu. Fait que je trouve qu'on a une belle balance avec ça. Ouais.
C'est fun de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre. Si à un moment donné ça déborde, que t'es pas pris tout seul avec tout ça.
Non, c'est sûr. Puis tu sais, moi je trouve ça super le fun parce que, un, t'as quelqu'un si jamais t'es très occupé puis il y a 2 urgences, t'as pas besoin de rusher un cas en bon français pour aller faire un autre cas. Puis 2, si t'as besoin, si t'as un cas plus difficile, qu'elle a besoin d'une deuxième opinion. Tu as toujours quelqu'un qui est disponible. C'est ça que maintenant, avec les cell phones, tout ça, tu peux juste texter quelqu'un, puis souvent les gens vont te répondre, mais c'est le fun de savoir qu'il y a quelqu'un de disponible si jamais tu es dans le trouble et tu as besoin de l'aide de mm-hmm. quelqu'un que tu peux juste avoir. Fait que ça, je trouve ça super intéressant.
Ça enlève ça. La pression un peu. Oui,
oui, oui.
Puis, mettons, je pense que c'est quelque chose qu'on entend un peu, là, tu sais, des fois, que c'est comme une bonne option, la radiologie d'intervention, pour ceux qui aiment les procédures, mais qui veulent avoir quand même une vie. Est-ce que c'est vrai que c'est comme mieux que les trucs chirurgicaux, mettons?
Et qu'on entend ça aussi.
Ouais.
Je pense pas que c'est moins occupé. Cette semaine, je fais 5 jours dans le jour, par exemple. C'est de 7h45 à 5h. Fait que c'est quand même des journées occupées. Je vais faire entre 15 et 20, 20, 22 cas par jour.
Oh, quand même.
Ouais. Wow.
Fait que c'est assez occupé.
Pas le temps pour dîner, là.
Non, c'est ça. C'est des lunchs de 10-15 minutes, là, entre deux cas. Fait que c'est assez occupé. Puis on fait, tu sais, 3 à 4 jours par semaine de procédure. Fait que c'est des journées qui sont assez occupées. Enfin, je ne dirais pas que c'est plus relax que de changer des spécialités chirurgicales. Je pense que dans les deux cas, je pense que c'est quelque chose qui est très demandant.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est vraiment un domaine, de ce que j'ai compris, là, entre étudiants qui est quand même compétitif. Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants qui cherchent à vouloir rentrer en radiologie ou en radiologie d'intervention? Qu'est-ce qu'ils devraient faire durant la médecine? Est-ce qu'il y a une recette miracle un peu pour rentrer?
Recette miracle, non. Je dirais que, premièrement, moi, en tout cas, moi, quand je fais des entrevues, je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ne disent pas dès jour 1 de la médecine que je vais rentrer en radiologie. C'est ça, j'ai un peu plus de difficulté. Je pense que j'ai beaucoup plus de respect pour les gens qui disent, moi, je vais rentrer, je vais avoir un esprit ouvert, je vais essayer quelques petites choses, puis là, je vais découvrir ce que j'aime vraiment. Parce que ça, je trouve que c'est la bonne approche. Puis c'est où tu vas vraiment comprendre les différentes spécialités, puis tu dis, oui, mais ça va plus me chercher. Fait ça, je trouve ça important. Je trouve qu'une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux faire, je pense que c'est bien de faire des stages options. Malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des stages options très courts maintenant, de 2 semaines, ce que je trouve extrêmement difficile. Parce que dans leur tête, je pense que les gens se disent « Ah, mais tu sais, je vais rencontrer plus de gens, fait qu'ils vont me connaître. » La réalité, c'est que en 2 semaines, dans un hôpital, vous le savez, tu sais même pas où la porte de sortie, les toilettes.
Ça pousse,
fait que pour nous, c'est la même chose. Tu rentres, on voit pas les étudiants, t'es ceux-là qui sont 2 semaines, tu les connais à peine, puis ils sont déjà partis. Fait que je trouve que des stages de 3-4 semaines, c'est beaucoup mieux. Parce que là, les gens sont capables de te connaître, t'es capable de comprendre la spécialité, ils sont capables d'écrire une lettre de référence plus personnalisée, meilleure. Puis toi, en tant qu'étudiant, tu comprends beaucoup plus la spécialité, puis tu sais vraiment si c'est ce que tu veux faire ou pas. Ça, je trouve ça super important. Sinon, tu sais, faire un peu de recherche, je pense que c'est important, ou t'es inclus. Je dis beaucoup aux gens, essayer de connecter avec les résidents puis les fellows, parce que souvent, ils vont aller prendre une bière, ils vont super ensemble, puis si tu fais partie du cercle, c'est plus facile, parce que le monde te connaisse, puis les gens vont venir nous voir, vont dire, ah, c'est une bonne personne, on aimerait ça l'avoir. Puis, fait que, tu sais, je te dirais que ça, c'est 80% du travail, c'est de faire ça. Puis l'autre 20%, c'est l'entrevue. Puis l'entrevue, ce que je te dirais aussi, c'est que faut que tu fasses attention d'être pas trop générique. Parce que quand tu fais 40, on fait 20 entrevues par jour, puis quand les gens... Il faut que tu trouves un moyen de te démarquer. Tu sais, des gens qui disent, ah, j'aime l'anatomie, j'aime la physiologie, puis t'es comme, oui, mais t'es pourquoi? Fait qu'il faut que tu réussisses à te démarquer. Puis je pense que les gens, il faut qu'ils se préparent un peu. Tu sais les questions qu'ils vont te poser. Puis d'essayer d'aller chercher quelque chose d'un peu plus individuel pour qu'on se rappelle de toi. Ah oui, c'est intéressant.
Être mémorable. Être mémorable.
C'est ça. Fait que je pense que ça, c'est un gros plus aussi pour les gens qui, pour les entrevues, tout ça, c'est de dire, ah, OK.
Tu peux juste dire ce que vous voulez entendre, mais ce que les gens pensent vraiment, ça va plus marquer que...
Ouais, puis d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Tu le sais ce que les gens vont dire. Puis il faut que tu ailles chercher un petit spin un peu différent sur les choses, puis dire, quelque chose de différent. Puis là, les gens vont se rappeler de ah oui, c'est intéressant ce qu'elle a dit, elle a fait ça, puis fait que ça, c'est le fun. Fait que je pense que ça, c'est un gros plus que les gens peuvent faire.
Puis sinon, vous avez mentionné une petite chose, je vais juste questionner là-dessus. Vous avez parlé comme aller voir les résidents, aller voir les fellows. Genre, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais comme je comprends pas trop comment ça se fait en tant que tel. Tu sais, je sais pas comment dire. Comme tu vas dans le milieu clinique, tu parles aux gens.
Ouais.
Et puis, tu, comme, j'ai toujours l'impression, genre, en tout cas personnellement, que comme je vais taper ses nerfs du monde, genre, en posant une question. Est-ce que parfois vous trouvez que les étudiants vous tapent ses nerfs ou à chaque fois vous avez des personnes qui sont intéressées, vous êtes heureux, genre, d'avoir des questions? Et...
Non, puis moi, ce que je dirais aux gens, c'est que, tu sais, c'est une balance entre talent, t'es agaçant, puis être intéressé, mais tu sais, je pense que la plupart des gens répondent bien aux gens qui sont intéressés. Ce que je te dirais, c'est que la plupart des médecins, c'est des gens, tu vas voir, c'est des gens extrêmement occupés. Tu reçois 1 million de courriels par jour. Puis des fois, on n'a juste pas le temps de répondre aux courriels, mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé, qu'on veut pas, tu on vous trouve agaçant. Non, c'est juste des fois, c'est que tu es tellement pris dans tes choses que tu n'as pas le temps, mais fait que c'est bien de pousser de temps en temps. Écoute, je suis vraiment intéressé, est-ce que je peux venir? Puis souvent, les gens vont bien répondre à ça. Fait que je trouve ça, je trouve ça intéressant. Puis l'autre chose que je te dirais aussi, c'est que, tu sais, quand tu appliques pour la médecine, souvent, ils vont chercher les gens qui ont des bonnes notes. Tu vas avoir un bon étudiant. En résidence, je trouve ça différent. Pour moi, on va avoir quelqu'un avec qui on va travailler pendant 5 ans. Je veux quelqu'un qui va être le fun à travailler, que tu vas pouvoir m'entendre. Puis pour moi, que tu as eu A+ ou 100% dans toutes tes cours, c'est moins intéressant. Je pense que si tu apprends bien puis d'une belle personnalité, je préfère travailler avec cette personne-là que quelqu'un qui a fait 1 million de recherches puis qu'il a eu des notes parfaites. Tu comprends? Fait que je pense que ça change la façon que... l'applicant en résidence, c'est différent d'appliquant en médecine. On va chercher quelqu'un avec qui on veut travailler. C'est comme ça que je vois ça. Fait que je pense que c'est différent dans ce sens-là. Puis une des façons de démontrer ça, c'est d'être capable de si tu vas te ramasser, tu fais une stage option, puis les résidents sont là, ils vont faire un barbecue. C'est pas mauvais de dire, ça me dérange pas si je viens. Puis là, tu vas pouvoir les rencontrer. Puis souvent, les gens sont ouverts à ça, puis ça va être le fun. Puis ça va donner aussi un sens de... Est-ce que c'est vraiment le milieu que j'aime, que je veux grandir, que je veux travailler dedans?
C'est vrai, c'est nos futurs collègues aussi.
C'est ça, c'est très important. Puis c'est aussi, les gens autour d'un barbecue ou autour d'une bière vont être capables de dire plus la vérité. c'est moins scripté, c'est moins...
Il n'y a pas les staffs pas loin des fous.
C'est ça. Fait que je trouve ça, c'est super important pour savoir... C'est-tu vraiment ce que je veux faire? Ça, je trouve ça super important.
Voir les dessous de la couverture.
Ouais.
Est-ce que vous avez un dernier conseil, un dernier mot à dire pour les étudiants qui nous écoutent en ce moment?
Oui, qui veulent choisir leur spécialité. C'est peut-être des questionnements qui, pour vous, sont clés, mettons.
Moi, je pense, honnêtement, avoir un esprit ouvert, c'est super important. Le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est essayer d'essayer un peu toutes les différentes spécialités, de dire, la chirurgie, c'est-tu quelque chose qui m'intéresse, la radiologie, c'est-tu quelque chose qui m'intéresse, la médecine interne, c'est-tu quelque chose qui m'intéresse, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça, c'est super, super important à faire. L'autre chose, c'est que je dirais, c'est de faire un peu de recherche, faire un peu rencontrer les gens, voir s'ils ont quelque chose d'intéressant, si c'est un domaine qu'ils aiment. Puis l'autre chose que je dirais qui est super important, c'est choisir, c'est pas une spécialité à cause des cas cool. C'est important. Ça a l'air fou. Parce que, tu sais, si tu parles à n'importe quelle spécialité, ils vont tous faire des cas incroyables. Mais ça reste que 95% de ton travail, ça va être le bread and butter. Fait qu'il faut que tu aimes le bread and butter. Fait que si quand tu fais une rotation, essaie de passer du temps à regarder les cas ordinaires. Puis dire, écoute, moi j'aime ça ou j'aime pas ça. Parce que si tu vas juste voir les cas intéressants, ça se peut que tu te fasses un peu avoir par le charme de ces cas-là. Parce que toutes les spécialités ont des cas super. Écoute, la pathologie... Moi, je ne suis pas capable de regarder un microscope, mais tu sais, des fois, ils ont des tumeurs super intéressantes. Tu es comme, oh, wow, cool, tout ça. Mais le day-to-day, il est très différent. Fait essayer de faire le day-to-day. Puis si tu aimes le day-to-day, puis tu aimes la spécialité, toi être correct, toi aimer, toi être content dans n'importe quel choix que tu fais.
Ben, merci beaucoup. Ouais, c'est des bons conseils. On va essayer d'appliquer ça.
Merci de m'avoir.
Ça fait un plaisir de vous recevoir.
Ah, merci de m'avoir reçu. Puis j'espère que les gens vont vouloir venir en radiologie d'intervention. Si les gens veulent venir, ils sont toujours la bienvenue. Ils peuvent juste venir dans la salle d'Anjou, puis on va prendre soin de vous. Il n'y a pas de souci.
Parfait. Je pense que tu l'as bien vendu.
Merci.